Bonjour à vous tous. Je m'appelle René Delattre. J'habite près de Narbonne. Je suis papa de 4 enfants. Mais les enfants s'agrandissent et ça fait des enfants un jour. Donc je suis grand-père de 9 petits-enfants. Oh là là, tout le monde tombe à la renverse. Comment est-ce possible ? Voilà, et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu parce que j'ai une belle famille, mais les choses n'ont pas démarré comme ça pour moi, puisque à ma naissance, il a fallu que celle qui m'a mis au monde me laisse et me confie à une famille d'accueil. Et c'est comme ça que tout était programmé pour mal fonctionner. J'ai grandi dans une famille qui était vraiment une très très bonne famille, avec des valeurs mises en pratique au nom d'un idéal, le communisme. Alors j'ai grandi nourri à ce qui est rouge, c'était pas du vin, mais c'était des idées. Mon père était très connu comme militant communiste. Tous les ans, le 1er mai, il y avait une centaine de musiciens qui venaient au garde-à-vous devant la maison jouer une aubade en l'honneur du citoyen qui était mon père. Inutile de vous dire que la seule chose que j'ai apprise au sujet de Jésus-Christ, c'est qu'il y a Napoléon, il y a De Gaulle, il y a Jésus-Christ, ce sont des grands hommes. Voilà tout ce qu'on m'a dit à la maison au sujet de Jésus-Christ, mais ça n'empêchait pas que dans mon cœur, il y avait une faim, il y avait une soif, il y a des questions qui se posaient. Et un jour, j'ai eu la réponse à ces questions sous la forme d'un cadeau. Mon frère était fiancé à un professeur de français. Ils m'ont invité à manger et ils m'ont dit, il y a un cadeau pour toi. C'était un livre appelé Nouveau Testament. Pour quelqu'un qui ne savait même pas qu'il y avait un Ancien Testament, un Nouveau Testament, je ne savais pas ce que c'était. Et voilà que mon frère, qui avait grandi à la maison, nourri aux mêmes idées, commence à me parler de Jésus-Christ. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais bien remarqué qu'il avait changé. C'était un musicien classique, joueur de clarinette, soliste dans un orchestre classique. Et lui aussi, il montait dans sa carrière. Et lui aussi, il avait un vide dans son cœur. Et il m'annonce là qu'il a rencontré Jésus-Christ. Pour moi, ça n'a pas été le déclic. J'ai pris le livre, je l'ai remercié. Et comme je voyageais beaucoup en faisant du stop, j'ai mis ça au fond de mon sac à dos. À chaque fois que je partais, que ce soit en France, à l'étranger, il y avait ce Nouveau Testament au fond de mon sac à dos, mais je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas ouvert. Et puis, il y a eu un jour, avec des amis, on a décidé de faire un voyage, comment dire, un peu particulier. On avait découvert une nouvelle réalité en ingurgitant du LSD. Ce LSD, je l'avais pris grâce à un livre que j'ai trouvé dans un rayon de bibliothèque. J'aime beaucoup lire. Ce livre s'appelait « Je veux regarder Dieu en face ». C'était un journaliste d'Europe numéro 1 à l'époque, journaliste Michel Lancelot, qui faisait une étude sur le mouvement hippie et comment la drogue avait été découverte par un professeur de l'université de Harvard. Et ça montrait un petit peu une nouvelle religion, louée soit Dieu, LSD. Je veux regarder Dieu en face, et ça montrait tout l'aspect spirituel des choses, ça m'a attiré. Et c'est comme ça qu'on a décidé de partir dans le sud de la France. On a pris le train, on était 4, on est arrivé à Valence, on décidait de continuer en stop. On était là à la sortie de Valence, on faisait du stop, ça ne marche pas, et voilà quelque chose qui arrive, qui n'arrive jamais à la SNCF. Il arrive une grève. Grève des contrôleurs de la SNCF. Formidable. On était déjà incontrôlables, voilà maintenant qu'on ne contrôlait plus. Alors on est monté dans le wagon là, et puis est arrivé un jeune hollandais avec des instruments de musique, miniature, pipeau, accordéon, tout ça. Et puis avec lui on a commencé à chanter, à parler, et moi je voyais ce rêve de liberté qui commençait à prendre forme. Et avec lui, on est allé sur le plateau du Larzac à Bédarieux, hein, c'était la grande époque. Et là, et bien c'était la maison bleue accrochée à la colline, exactement ça, une grande maison. Et il y a des jeunes qui allaient, qui venaient, qui partaient en Inde, qui allaient ailleurs, et qui revenaient, qui racontaient. Et puis, je voyais ce jeune qui nous avait invités, Yann, le Hollandais, qui partait tous les soirs avec un gros livre. Je l'ai suivi un soir et il me dit « Je suis disciple de Confucius ». Et il m'a expliqué sa croyance. On les a quittés parce qu'on voulait rejoindre une communauté non violente de Lanza del Vasto, un disciple de Gandhi. Et on s'est retrouvé dans cette communauté où il y avait une centaine de personnes qui lisaient la Bible toutes les heures. Il y a une cloche qui sonnait, tout le monde se rassemblait, ils lisaient la Bible en faisant du yoga. Bon. Et puis on les a quittés également et on décide de venir sur Toulouse ici où nous avions eu une amie qui nous attendait, qui nous avait invités. Nous quittons Bédarieux, on descend par un sentier de randonnée à Béziers. Et là, sur le chemin de Béziers, il y a un homme qui sort, une grande barbe, en disant « Venez, venez, je vous invite, vous devez avoir soif. » Il nous offre un verre d'eau, il nous dit « Je suis ermite. J'ai tout quitté pour vivre seul au milieu de la forêt parce que je veux trouver Dieu. » On le quitte et puis on arrive à Béziers. À Béziers, je fais du stop. On était trois là. Un autre avait pris une autre route. Et la voiture s'arrête, nous embarque. Et puis il commence à nous parler de la méditation transcendantale. Comment rencontrer le grand transcendant au travers du silence qui est imprégné dans la musique indienne. Bon, et j'arrive ici à Toulouse. Et là, je suis complètement perturbé. Je me dis, c'est pas possible. Tous ces gens qui croient en Dieu, moi qui ai tellement soif, tellement envie, mais j'ai pas envie de devenir un gars bizarre qui vit comme un ermite, qui lit la Bible en faisant du yoga. Il y avait toujours ça qui me bloquait dans les gens que j'avais rencontrés. Et j'ai dit à mes amis, écoutez, je vous laisse, je continue ma route tout seul, je veux retourner voir mon frère et qu'il m'en explique davantage. Je vais à la gare Matabio, je monte dans le train pour Paris. Le train était bondé de monde, il y a deux filles qui étaient assises là en face de moi, le train démarre et elle commence à parler avec moi, elle me dit « Au fait, est-ce que tu connais Jésus-Christ ?» Et là j'ai compris que j'étais suivi, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui me cherchait. Alors je suis allé voir mon frère, je lui ai dit « Tu vas toujours à ton église là ?» dont tu m'as parlé, j'aimerais aller avec toi. Il m'a dit, ben viens dimanche prochain, je t'amène. Et là, je suis arrivé dans cette église à Dunkerque. Je suis de Dunkerque, hein, je suis du Nord. Dans cette église à Dunkerque, je suis arrivé, il y avait des centaines de personnes, il y avait de la musique, ça louait Dieu. Et ce qui m'étonnait, c'est que c'était des gens qui avaient l'air d'avoir ce que je n'avais pas. Pourtant, ils n'avaient pas besoin de l'apparence. Moi, il fallait les cheveux longs, les tuniques indiennes, les jeans, les sandales, tout ça. Je croyais que c'était avec ça qu'on était heureux. J'étais contre les uniformes, mais on s'habillait tous pareil. Et là, je voyais des gens qui étaient habillés comme tout le monde, plutôt même bien habillés. C'était un dimanche matin. Et je me dis quand même, ces gens-là, j'ai toujours cru que c'était les bourgeois, l'establishment, les gens complètement dépassés, réactionnaires. Puis je les vois là, ils ont l'air d'avoir quelque chose que je n'ai pas. Alors j'ai pris ma Bible et j'ai fait un raisonnement, une sorte de, comment ça s'appelle, syllogisme ou ces raisonnements. J'ai dit voilà, si tu es Dieu, tu sais tout. Si ce livre c'est la parole de Dieu, comme tu sais tout, il y a tout dans ce livre. Il y a donc une page qui parle de moi, René de Lattre. Et j'ai plié une page comme ça, je n'avais jamais lu, j'ai plié une page en deux. Et là, j'ai dit, je la lirai en rentrant chez moi. Et si ça parle de René de Lattre, d'accord, je veux bien croire. Si ça ne parle pas de René de Lattre, eh bien je chercherai, je continuerai à chercher. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Moi, je ne le savais pas. Mais ce jour-là, j'ai réalisé qu'il savait tout de moi, qu'il était juste à côté de moi, qu'il avait entendu mon raisonnement, qu'il avait vu mon geste. Et que s'est-il passé après? Eh bien, j'ai vu un monsieur se lever sur l'estrade. Plus tard, j'ai appris que c'était le pasteur et qu'on faisait comme ça dans les églises. Et ce monsieur a demandé d'ouvrir la Bible. Et il a demandé d'ouvrir la Bible dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 23. Et moi, j'ai ouvert ma Bible. Vous savez, quand il y a une page qui est pliée, ça s'ouvre tout seul à cette page-là. Cette page, c'était Ézéchiel, chapitre 22. Il y a quand même pas mal de pages, il y a des mathématiciens ici. Faites le calcul de probabilité pour que ça s'ouvre vraiment ou qu'on plie au hasard la page que le pasteur que j'avais jamais vu de ma vie avait préparée sur le texte qu'il avait préparé avant. J'étais bouleversé, moi. Je venais de réaliser que j'avais parlé à Dieu, que Dieu m'avait répondu, que Dieu était non seulement, n'était pas une idée, une invention, mais qu'il était quelqu'un de réel, quelqu'un de vivant et qu'il était à côté de moi. Alors je lui ai dit, à partir de maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver. Et c'est ce que je vous inviterai à faire vous aussi tout à l'heure. À partir de maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce que va devenir ma vie, mais je veux que ce soit toi qui la conduise. Et à ce moment-là, je suis devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un de transformé. J'ai découvert par la suite dans la Bible que Jésus parlait de nouvelle naissance, qu'il parlait d'être une nouvelle créature. Et je remercie Dieu de ce que je n'ai pas trouvé une religion avec des commandements, avec des choses qui vous étouffent, mais j'ai trouvé un sauveur qui m'aime et qui conduit ma vie. À la fac, le prof avait fait des binômes. J'étais en faculté de biologie et il avait fait des binômes pour les travaux dirigés. Delattre, et il m'avait mis avec une fille qui s'appelait Catherine Delannoy. Delattre, Delannoy. Et on était en binôme. Et on faisait un peu plus que la biologie, la zoologie, la géologie. C'est qu'on avait choisi d'être binôme 24 heures sur 24. On vivait ensemble. Elle supportait pas quand je parlais de ma soif de Dieu, de mes recherches et tout ça. Elle disait arrête. Pour elle, c'était mangeons, buvons, car demain, et réjouissons-nous, demain on meurt, c'est fini. Elle était d'une famille très aisée. Elle avait des moyens. Elle se sortait. Elle avait toutes sortes de plaisirs et pour elle, c'était ça. C'était matériel et rien d'autre. Mais quand elle m'a vu arriver ce jour-là, elle me dira plus tard, t'étais tellement transformé que je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Et quand je l'ai invitée à venir aux réunions, eh bien tout de suite, elle a donné son cœur à Jésus. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à conduire ma vie. Il a pardonné mes péchés. J'ai compris que c'était par Jésus-Christ qu'il avait fait sur la croix que je pouvais être délivré, il a pardonné mes péchés. Peu de temps après, parce que les écoles trouvaient que nous étions des étudiants particuliers et qu'elles n'avaient pas la capacité d'accueillir notre profil unique. En fait, j'étais rayé de la liste, quoi. Et peu de temps après, eh bien, Dieu nous a conduits vers un travail. On était enseignants, tous les deux, un métier que j'aimais beaucoup. Bien sûr, nous avons fondé une famille, les quatre enfants, etc. Et moi, je remercie Dieu. Je remercie Dieu, non seulement de ce qu'il m'a sauvé, mais de ce qu'il a fait que ma vie soit quelque chose de réussi, alors que tout était programmé pour que ça rate. Merci au Seigneur. Et voilà comment je suis devant vous, en disant non pas que je suis un pasteur, mais avant tout que je suis un chrétien, comme l'a dit le frère Jean-Marc Bautron.